Il est 18h, c'est l'heure du journal. Présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Des nouvelles du Brexit dans ce journal. Pourrait-il y avoir un espoir d'accord qui permettrait d'éviter un no deal? Ce matin, le négociateur européen Michel Barnier et son homologue britannique Stephen Barclay se sont rencontrés, ce qui a visiblement provoqué des avancées. Angélique Boin nous attend en direct de Bruxelles. Nous irons également en Turquie dans ce journal, plus exactement dans la ville frontalière avec la Syrie, Akçakale, où l'offensive des militaires turcs sur les YPG kurdes a repris de plus belle. Correspondance à suivre de Mathieu Mondoloni. Les suites de l'attribution du prix Nobel de la paix aujourd'hui au premier ministre éthiopien. Comment Abiy Ahmed peut-il concrétiser les espoirs que cette récompense vient souligner? Reportage à Addis Abeba. Et puis, l'enquête de cette édition, en fin de journal, enquête signée Benoît Colomba, consacrée au montage financier étonnant de l'Office national des forêts. Un sommet européen important la semaine prochaine, une date butoir le 31 octobre qui approche, on est à J-20. Les négociations entre Union européenne et Royaume-Uni sur le Brexit étaient ces jours-ci condamnées à reprendre ou à cesser définitivement. Finalement, elles reprendront et de manière intense, si on en croit le communiqué publié tout à l'heure par la Commission européenne, communiqué qui faisait suite à la rencontre à Bruxelles entre le négociateur Michel Barnier pour l'UE et son homologue britannique Stephen Barclay, rencontre qualifiée de constructive. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Notre correspondante permanente à Bruxelles. Dans ces discussions, tout tourne toujours évidemment autour de la question de la frontière irlandaise. Est-ce que les avancées promises hier par Boris Johnson peuvent permettre d'imaginer un possible accord ?
Oui, après avoir donné le sentiment ces derniers jours qu'il était désormais quasi impossible d'aboutir à cet accord de sortie ordonné des Britanniques avant la fin du mois, l'ambiance a clairement changé ici. Hein. Avant-hier, à l'ouverture de la session parlementaire, devant les élus, rappelons que le négociateur en chef, Michel Barnier, disait qu'à ce stade, la proposition britannique n'était pas acceptable. Mais Londres aurait donc fait de nouvelles propositions sur les deux points de blocage, l'épineuse question des contrôles douaniers sur l'île d'Irlande et puis le droit de veto donné à l'Irlande du Nord sur cette question du Brexit. On en connaît pas le détail de ces propositions. Moins on en dit, mieux c'est, a déclaré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar après sa rencontre jugée fructueuse hier avec son homologue britannique Boris Johnson. Des discussions donc orales, qualifiées également de constructives ce matin entre Michel Barnier et son homologue, restent néanmoins à négocier point par point un document écrit, précis, juridiquement acceptable par les deux parties. C'est à cela que vont s'atteler les négociateurs des deux camps. Ils seront mobilisés tout le week-end avec l'idée de présenter une feuille de route dimanche soir ou lundi aux 27 ambassadeurs des pays membres. Alors, ce sera l'heure de vérité. On saura s'il y a une vraie volonté de trouver un accord côté britannique. Il faut, comme toujours, rester très prudent. Toute cette agitation peut tout à fait déboucher sur rien, prévient une source européenne.
Alors justement, en cas de nouvel échec à trouver un terrain d'entente, Angélique, le calendrier se resserrant, quelles sont les alternatives possibles ?
Eh bien, on revient à la situation des deux derniers conseils européens consacrés au Brexit. Il y aura sur la table jeudi prochain des chefs d'État et de gouvernement deux options. Soit les Britanniques auront formellement demandé un nouveau report du Brexit. Il faudra qu'il soit justifié pour que les 27 l'approuvent et il faut l'unanimité. Et donc, on repart pour plusieurs mois de discussion. Soit les Britanniques ne l'auront pas fait et c'est alors ce que les diplomates ici appellent un no deal par accident le 31 octobre au soir. Une sortie donc brutale de l'Union de la Grande-Bretagne. Mais rappelons qu'en l'absence de compromis, une loi britannique impose au Premier ministre Boris Johnson de demander ce report. Il répète qu'il ne le fera pas, qu'il veut que son pays sorte coûte coûte à la fin du mois. Le flou demeure sur la façon dont il compte procéder.
Merci Angélique Boin à Bruxelles pour France Culture. À Manchester, en fin de matinée, une attaque au couteau a fait plusieurs blessés et a entraîné l'évacuation d'un centre commercial. La police antiterroriste est chargée de l'enquête. Un suspect âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté. Troisième jour de l'offensive militaire turque dans le nord de la Syrie où les combattants des YPG, composantes essentielles des forces démocratiques syriennes, opposent une résistance farouche aux soldats turcs. De leur côté, les civils continuent à fuir, notamment depuis les villes de Talay Abiad et de Ras Al Ain. Selon un bilan publié par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 17 civils ont été tués depuis mercredi et le début de cette offensive. Et cet après-midi, on apprend que plus à l'est, un attentat à la voiture piégée a touché la ville kurde des frontières de Kamishli, il y a des victimes. Dans la ville d'Akçakale, ligne frontalière et sur la ligne de front, les combats, Mathieu Mondoloni, ont repris aujourd'hui.
Comme en témoignent les hélicoptères qui passent au-dessus de nos têtes, des hélicoptères équipés de lance-roquettes. Ils volent à très basse altitude et sont évidemment là pour appuyer l'offensive de l'armée turque qui se poursuit. Les tirs d'artillerie ont repris peu après la prière du vendredi, des salves répétées qui visent l'autre côté de la frontière et les positions des forces kurdes. Elles dénoncent d'ailleurs un pilonnage intensif. On voit parfois une volute de fumée derrière cette frontière. C'est souvent le résultat des bombardements, mais aussi parfois des pneus qui sont brûlés par les combattants kurdes pour gêner le travail des drones et des avions adverses. En revanche, contrairement à hier, il n'y a pas eu ici jusqu'à maintenant de tirs de mortier dans ce village d'Akçakale, un village où l'on voit un peu partout, sur les façades des maisons, des magasins ou sur les capots des voitures, des drapeaux rouges et blancs, des drapeaux turcs évidemment déployés pour marquer le soutien appuyé de la population au président Erdogan et à son opération militaire.
Mathieu Mondoloni, dans la ville frontalière d'Akçakale. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a fortement encouragé aujourd'hui Ankara à interrompre cette opération militaire en Syrie, affirmant qu'elle pourrait avoir de graves conséquences pour la Turquie. C'est un communiqué qui a été publié aujourd'hui par le Pentagone. Les Pays-Bas suspendent de leur côté toute nouvelle exportation d'armes vers la Turquie en réponse à cette offensive. Un prix Nobel de la paix. Et après, le plus dur reste probablement à faire pour le tout nouveau lauréat consacré ce matin, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, récompensé pour ses efforts en faveur de la démocratie et pour le rapprochement qu'il a entamé avec l'Érythrée. Abiy Ahmed va en effet devoir redoubler d'efforts pour traduire cet espoir en résultats concrets et durables. Beaucoup de travail reste en effet à faire pour obtenir et pour ratifier un nouvel accord politique en Éthiopie entre des acteurs toujours très divisés. Le reportage à Addis Abeba de Vincent Dublange de RFI.
Dans la rue commerçante du quartier de Kazanchis, cet homme a vécu dans sa chair l'annonce de l'obtention du Nobel.
En tant qu'Éthiopien, c'est comme si j'avais aussi gagné, pas seulement lui.
Pourtant, le pays est au bord de l'effondrement, martèle le journaliste et activiste Abel Wabella. Il est miné par des conflits communautaires, mais pour cette femme à l'élégant foulard bleu, Abiy fait ce qu'il peut.
Du point de vue de la promotion de la paix, il fait de gros efforts en direction de ceux qui se battent entre eux parce qu'ils ne parlent pas la même langue ou n'ont pas les mêmes idées politiques. Il essaye de prêcher l'unité.
Un prix mérité donc, d'abord par son action internationale, selon ce jeune homme.
Les Éthiopiens et les Érythréens n'avaient pas de relations diplomatiques pendant 20 ans. Les restaurer a amené beaucoup de bénéfices.
Le principal intéressé a brièvement réagi. « J'étais aux anges, je suis très humble, ce prix est celui de l'Afrique et de l'Éthiopie. On n'aura rien d'autre de la part d'Abiy Ahmed. Tout juste un détail donné par sa porte-parole, Bilene Seyoum. Le Premier ministre soudanais est en visite officielle en ce moment. Il était avec son homologue éthiopien pile au moment de l'annonce. Une manière peut-être de souligner qu'il était au travail et que ce prix Nobel ne va rien changer de ce point de vue. »
Vincent Dublange de RFI pour France Culture. Le cosmonaute soviétique Alexei Leonov est mort aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Il avait 85 ans et avait été le premier homme à effectuer une sortie spatiale extravéhiculaire. C'était en mars 1965. Il avait également, 10 ans plus tard, été le commandant de la première mission spatiale conjointe entre l'URSS et les États-Unis, mission Apollo-Soyouz. À Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique, se tenait hier la 4e réunion du comité de suivi des cancers pédiatriques dont la prévalence ces derniers mois inquiète la population. 17 enfants ont déclaré des cancers dans un rayon de moins de 10 km autour de cette ville de Sainte-Pazanne, 6000 habitants. 3 enfants sont décédés et les autorités sanitaires ont bien été obligées de reconnaître qu'on est là en face d'une concentration exceptionnelle de cas de cancer. Hier donc, les familles attendaient d'obtenir les résultats des enquêtes confiées à Santé publique France et à l'Agence régionale de santé, mais aucune nouvelle donnée ne leur a été fournie et les parents ont appris que les prélèvements prévus à partir du mois de novembre dans leur domicile seront très restreints. Marie Thibault, dont le fils a survécu à un cancer, est stupéfaite.
Pas d'analyse de l'air extérieur, d'accord. Donc on ne prend pas en compte la pollution environnementale autour. L'analyse de l'air intérieur, elle est faite dans nos domiciles, donc les 17 familles dont l'enfant a déclaré un cancer. Et puis dedans, on va chercher par exemple du formaldéhyde. Mais très bien, mais le formaldéhyde s'est retrouvé absolument partout, dans toutes les habitations, chez tout le monde en France, dans tous les magasins. Alors là, je ne comprends plus. Si c'est ça qui déclare les cancers de nos enfants, c'est pas possible en fait.
Mais ils ne vont rien chercher d'autre.
Alors, il n'y a pas que du formaldéhyde, il y en a d'autres également, mais qui sont du même ordre. En fait, ils ne sortent pas des sentiers battus du tout. On est vraiment sur quelque chose de très simple. L'eau, c'est pareil. L'eau, ils ne vont chercher dans l'eau que les pesticides. Écoutez-moi bien, ils nous ont dit qu'ils sont vendus. Puisque, c'est sûr que personne n'achète rien sur Internet, personne, les seuls pesticides qui sont utilisés, c'est bien connu, ce sont que ceux qui sont répertoriés là dans les listes des achats. Non mais, sauf que nous, dans le corps de nos enfants, tout ce qui a été retrouvé, c'est totalement interdit et retiré du marché. Mais non, ils vont pas le chercher. Ils ont décidé de ne rien aller chercher de tous les polluants. Ça va pas du tout. Bon, moi, je comprends pas la méthodologie, finalement. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible pour eux. Ok, ils vont pas faire de la recherche. Mais quand même, quand ils viennent à nos domiciles, mais qu'ils aillent rechercher l'ensemble des polluants qui sont retrouvés sur notre secteur de manière générale. Là, aujourd'hui, c'est nos enfants qui sont en train de tomber malades. On fait quoi maintenant? On fait quoi pour hier? On fait quoi pour demain?
Marie Thibault, l'une des fondatrices du collectif Stop au cancer de nos enfants à Sainte-Pazanne. Elle répondait à Tarache Légal. Pas moins de 4 ministres en visite à Rouen aujourd'hui suite à l'incendie de l'usine Lubrizol. Un incendie qui aura causé aux agriculteurs un préjudice global estimé entre 40 et 50 millions d'euros. C'est ce qu'indique le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. L'heure des plaidoiries au procès de l'attentat raté à la bonbonne de gaz près de Notre-Dame de Paris en 2016. Hier, l'avocate générale de la Cour d'assises spéciale de Paris avait requis des peines de 20 à 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre des 4 femmes accusées d'avoir organisé l'action, parlant de leur engagement maximal dans leur combat au nom du groupe État islamique. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
En direct du Palais de justice de Paris, aujourd'hui la parole était à la défense.
Et notamment la défense d'Ornella Gilligman, l'une des principales accusées dans ce procès, celle qui aurait tenté de commettre l'attentat en face de Notre-Dame avec Inès Madani. Depuis 3 semaines maintenant, les 2 femmes se rejettent la responsabilité sur l'initiative de cet attentat raté. Et pour ces 2 avocats, Ornella Gilligman ne peut être à l'origine de ce projet. Maître Youn décrit sa cliente comme une personne soumise. On n'est pas dans une relation d'une femme de 29 ans face à une adolescente fragile. Ornella Gilligman est persuadée d'échanger avec un djihadiste aguerri et cette relation va la conditionner. L'avocate évoque un acte qui relève davantage d'un crime passionnel que d'une quelconque adhésion idéologique au djihad. Sauf qu'il y a eu cette tentative en 2014 d'aller en Syrie avec ses enfants. Mais pour son autre avocat, les départs vers cette zone à cette époque étaient massifs. Ils ne correspondaient pas alors forcément à un objectif de guerre, d'autant plus que les femmes ne combattaient pas à l'époque au sein de l'État islamique. Et selon Maître Nogueras, Ornella Gilligman a d'ailleurs renoncé à ce projet une fois arrivée en Turquie. Il n'y a donc pas eu tentative d'aller en Syrie, mais désistement volontaire. Selon lui, sa cliente a voulu faire discrètement capoter le projet d'attentat, notamment en utilisant du gasoil comme mauvais combustible pour éviter de mettre le feu aux bonbonnes de gaz. Comment pouvait-elle le savoir? Il laisse entendre qu'Ornella Gilligman aurait pu participer à des bêtises dans sa jeunesse, des incendies de bus scolaire. Face à cette défense d'Ornella Gilligman, quels seront les arguments des avocats d'Inès Madani? Réponse lundi matin.
Merci beaucoup Antoine Marette en direct du Palais de justice de Paris. Le Conseil constitutionnel a acté aujourd'hui dans une décision très attendue le principe de gratuité à l'université. Il avait été saisi ce Conseil constitutionnel en juillet dernier d'une question prioritaire de constitutionnalité suite à la hausse des droits d'inscription universitaire pour les étudiants extra-communautaires. Elle avait été décidée en 2018. Cette décision du gouvernement avait entraîné une large contestation chez les étudiants, les enseignants ou encore les présidents d'université. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Que dit cette décision du Conseil ?
Oui, l'exigence de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur, dit le Conseil constitutionnel, et il tranche là de manière inédite dans la mesure où cela n'avait jamais été clairement formulé, mais il ajoute que ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient perçus, je cite, des droits d'inscription modiques, ce qui, rappelons-le, est déjà le cas pour l'ensemble des étudiants du supérieur. Cette décision fait suite au recours de 3 organisations d'étudiants, démarche à laquelle se sont associés des syndicats étudiants et enseignants. Les associations attaquent l'arrêté, augmentant, vous le disiez, les droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Extra-européens. Seules quelques universités ont effectivement appliqué cette hausse qui porte les frais d'inscription à 2770 euros en licence contre 180 pour les étudiants français et européens et à 3770 euros en master contre 243 euros. Robin Manouri de l'une des CEP, l'une des associations contestant le texte, se dit confiant pour la suite, à savoir le jugement sur le fond qui sera prononcé cette fois par le Conseil d'État.
L'enjeu de la prochaine audience du Conseil d'État, ça va être de définir ce que c'est modique. On prône que ce soit égal pour tout le monde et que l'enseignement supérieur reste ouvert et gratuit pour tout le monde. Que tous les étudiants, qu'ils soient communautaires, français, étrangers, extra-communautaires, payent les mêmes droits d'inscription, que le principe de gratuité s'applique à tous et que cette somme modique soit interprétée strictement, c'est-à-dire que ce ne soit que quelques centaines d'euros pour tout le monde.
Le ministère de l'Enseignement lui fait valoir que ces frais correspondent à un tiers du prix réel des formations et considère donc qu'il s'agit bien d'un coût modique. L'audience du Conseil d'État est attendue dans les prochains mois.
Merci Catherine Pétillon. 18h15, la suite du journal de France Culture avec l'enquête du service investigation de Radio France. Bonsoir Benoît Colombat.
Bonsoir.
Une enquête sur l'ONF, l'Office National des Forêts, en crise. Il a beau vendre du bois, cet office, il a du mal à équilibrer ses comptes et votre enquête révèle, Benoît, que cela l'amène à imaginer des montages financiers parfois, disons, discutable.
Oui, il est clair qu'aujourd'hui, le modèle économique de l'ONF basé sur la vente de bois ne fonctionne plus. Et pour faire rentrer de l'argent, l'office a donc multiplié ses activités commerciales et celles de ses filiales. Et en 2012, il a même envisagé de faire appel à des fonds de pension du placement privé pour se donner de l'air, comme le montre ce document que nous avons fait lire.
Le placement privé est la meilleure option susceptible de sécuriser le financement de l'ONF. Les placements correspondant à des contrats de droit allemands privilégiés par les fonds de pension allemands et autrichiens limitent le nombre de prêteurs potentiels, mais ils garantissent une grande confidentialité. Ces placements apparaissent les plus adaptés aux besoins et aux exigences de l'ONF.
L'idée, c'est donc d'émettre des titres de créance auprès d'investisseurs privés au lieu de faire un prêt bancaire classique, ce qui n'est pas a priori une opération risquée, mais ça a tout de même provoqué la crainte d'un changement de philosophie dans la gestion de l'ONF, et notamment chez Geneviève Ray, une ancienne directrice adjointe.
J'ai eu une interlocutrice, une spécialiste financière, qui m'a dit « vous allez finir avec des Qataris ». Est-ce bien raisonnable ? C'était exactement mon sentiment. C'est un peu la financiarisation de l'ONF. En tout cas, c'est un fantasme de recours au marché financier pour résoudre un problème qui est un problème politique. C'est que veut-on faire de ce bien commun qu'est l'ONF ?
Et selon nos informations, l'opération ne s'est finalement pas faite. La direction des affaires juridiques du ministère de l'économie met alors son veto en expliquant que le statut de l'ONF ne lui permet pas tout simplement d'aller sur ces marchés.
Mais alors il y a un autre projet de mécano financier, Benoît, que vous avez découvert.
Oui, cette fois c'est une filiale de l'ONF qui envisage d'entrer au capital d'une société liée à un fonds spécialisé dans l'agroforesterie, le fonds Moringa, un fonds lié à des sociétés luxembourgeoises et qui est piloté par une banque suisse, d'où l'avertissement lancé le 7 juin 2012 par le département financier de l'ONF.
Le risque principal réside dans l'implication de l'ONF dans le montage lui-même. La banque étant de droit suisse, elle ne peut garantir l'origine des fonds investis. Ce projet Moringa peut donc soit mettre en jeu des sommes d'origine douteuse, soit des sommes propres que les propriétaires souhaitent faire échapper au fisc. La révélation de l'implication, même indirecte, de l'ONF dans de telles activités pourrait être lourde de conséquences.
Et un mois plus tard, c'est le contrôleur général financier qui met lui aussi son veto à un montage qu'il juge opaque. L'ONF renonce donc, mais travaille tout de même comme partenaire technique, aujourd'hui encore, avec ce fonds, notamment en Afrique.
Ce qui montre bien qu'on va chercher l'argent là où il se trouve, hein, et y compris chez des mécènes.
Oui, et parmi les financeurs privés de l'ONF, on trouve notamment la Fondation Total, le pétrole au service de la forêt, ça pourrait surprendre, mais le directeur général par intérim de l'ONF, Jean-Marie Oran, assume parfaitement.
Total est devenu un partenaire comme d'autres d'ailleurs. Ce n'est pas le plus gros partenaire sur la moyenne des 5 dernières années.
Mais pourquoi accepter un tel partenariat ?
Et pourquoi pas ? Je vous pose la question, quel est le problème ? La Fondation Total, elle intervient dans beaucoup de secteurs, et y compris auprès d'organisations non gouvernementales qu'elle soutient. Au nom de quoi ? Je dirais à Total, non. On ne veut pas de votre argent.
Pas de problème donc pour la direction, mais cette politique de partenariat, elle est contestée aujourd'hui par les syndicats de l'ONF qui estiment que le service public doit être indépendant des financements privés.
Merci Benoît Colombat du service investigation de Radio France. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. C'est une grande voix de la radio qui s'est éteinte. Elle a longtemps résonné agréablement dans ces couloirs de la maison de Radio France. La journaliste Annette Ardisson est décédée la nuit dernière à l'âge de 69 ans. 39 ans. Recrutée en 1975 à France Inter, elle avait été une des premières femmes à avoir été nommée rédactrice en chef dans la station. Le journalisme politique, l'actualité européenne et puis l'actualité francophone, quelques-uns de ses faits d'armes. Radio France salue ce soir une grande figure du journalisme suite à la disparition donc de Annette Ardisson. La météo, un samedi particulièrement chaud pour une mi-octobre avec des températures montant demain au plus fort de la journée jusqu'à 30 degrés dans le sud-est. Le temps sera variable.